Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, je suis Lucie Aubourg, vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de l'AFP aux États-Unis.
We did win the race to the moon.
Nous avons gagné la course vers la Lune. Nous avons gagné cette course il y a un demi-siècle et maintenant nous allons gagner à nouveau au 21e siècle et au-delà. Notre pays retournera sur la Lune et les Américains poseront le pied sur Mars. Bienvenue dans cette nouvelle ère de leadership américain dans l'espace.
Le vice-président Mike Pence l'a promis, les États-Unis ne se laisseront pas distancer dans l'espace. Il y a 50 ans, l'Américain Neil Armstrong posait pour la première fois le pied sur la Lune. 11 autres de ses compatriotes suivront dans le cadre des célèbres missions Apollo. Mais où en est la conquête spatiale aujourd'hui ? Satellites par milliers, touristes spatiaux, développement fulgurant des sociétés privées comme SpaceX, avec toujours Mars en ligne de mire, les journalistes de l'AFP vous racontent cette nouvelle conquête spatiale.
President Donald J. Trump!
So that we can keep making America great again.
Yvan Couronne, bonjour.
Bonjour.
Tu es le reporter science de l'AFP à Washington et tu es notamment chargé de couvrir l'espace. Aujourd'hui, les Américains veulent retourner sur la Lune. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce que la NASA s'ennuyait. Donald Trump avait envie d'annoncer un grand projet. Parce que l'industrie spatiale avait aussi envie de développer des projets qui nécessitent beaucoup d'argent et qui vont leur faire gagner beaucoup d'argent. Il y a plein de raisons. Trump a annoncé ça en 2017, quelques mois après être arrivé à la Maison-Blanche. Et puis la NASA est partie doucement, a dit on va faire ça pour 2028. Et puis il y a quelques mois, donc le vice-président Mike Pence, il a dit finalement on va faire ça en 2024. A priori, la NASA n'avait pas vraiment été consultée sur ce changement de calendrier. Toujours est-il que maintenant la NASA a pour objectif 2024, donc c'est dans 5 ans, et il est assez peu probable qu'ils y parviennent.
Finalement, pourquoi cette date elle a été avancée ? Est-ce qu'on sait ?
Non. Après, on peut essayer de deviner. 2024, c'est comme par hasard la dernière année du deuxième mandat potentiel du président Trump. Donc ceci peut peut-être expliquer cela, mais bien sûr, l'administration ne dit pas ça. Elle dit, et peut-être avec raison, que le président donne un ordre en 2017. La NASA répond, on va le faire dans 11 ans. Peut-être que, avec raison, le président Trump estime que c'est peut-être un petit peu long de prendre 11 ans pour refaire quelque chose qu'on a fait dans les années 60.
Comment ce programme a été baptisé ?
Le programme s'appelle Artemis. Artemis, c'était la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Et Apollon se dit bien sûr Apollo en anglais, qui sont les premières missions sur la Lune. Donc à la NASA, ils sont très contents d'avoir choisi Artemis parce que c'est un nom de déesse, la déesse de la nature, la déesse de la chasse, parfois associée aussi à la Lune. Donc ça tombe très bien. Et ça tombe aussi très bien puisqu'ils veulent envoyer à cette occasion la première femme sur la Lune. L'autre nouveauté de ces missions Artemis, ils vont atterrir au pôle sud de la Lune. Apollo, ils ont toujours atterri un peu dans la région équatoriale qui était un peu plus facile d'accès. Là, ils vont aller au pôle sud où il y a de l'eau glacée. Et l'idée, c'est de développer un peu une infrastructure au sol, notamment pour exploiter cette eau, parce que si tu exploites l'eau, tu peux avoir de l'eau à boire, tu peux faire de l'hydrogène pour propulser tes fusées, etc. C'est une ressource que, du coup, tu n'aurais pas à transporter depuis la Terre. Et comme tu le sais, transporter des choses depuis la Terre, ça coûte très très cher, donc si on peut les utiliser sur place, on économise beaucoup d'argent, beaucoup de fusées. L'idée aussi, c'est d'apprendre à vivre sur un autre monde pour ensuite aller ailleurs dans le système solaire, c'est-à-dire sur Mars. On va s'entraîner sur la Lune pour se préparer à Mars, qui est un projet infiniment plus compliqué que d'aller sur la Lune.
Il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes plus loin.
Depuis la Lune, une autre grande réalisation de la NASA, c'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Elle est en orbite à environ 400 km de la Terre et des astronautes s'y relaient en permanence depuis 2000. Comment est-ce qu'ils font pour y aller ?
La particularité actuelle, c'est que le seul moyen d'y accéder, c'est par des fusées russes, des fusées Soyouz. Les Américains s'entraînent à Moscou, ils apprennent le russe, puis ils décollent à partir de fusées russes et ils reviennent sur Terre à partir d'un module Soyouz.
Alors ça n'a pas toujours été comme ça.
Alors effectivement, tout l'assemblage côté américain s'est fait avec la navette. Les gens se souviennent peut-être de ce que c'est la navette. Ça ressemble un peu à un avion, il y avait des ailes. C'était le principal moyen de transport des Américains vers l'espace de 1981 à 2011. La navette s'est arrêtée en 2011. Les Américains n'avaient rien pour remplacer la navette. Donc depuis, ils achètent des places à bord du Soyouz. Ça vaut 80 millions de dollars l'aller-retour. Maintenant, ça va changer. Les Américains ont demandé à deux sociétés spatiales américaines de prendre le relais et en fait de créer des taxis pour la NASA. Et donc les deux sociétés, c'est Boeing et SpaceX. Et en gros, la NASA ne va plus posséder le véhicule et ça, c'est un grand changement. Avant, la NASA, elle achetait des choses à Boeing, à Lockheed Martin, aux grands groupes aérospatiaux et elle possédait les véhicules. Avec SpaceX et Boeing, pour transporter les astronautes, elles louent le transport, en fait, un service de transport. Ça prend encore un peu de temps, elles seront peut-être prêtes à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine.
Et je crois que tu as assisté au lancement d'une fusée de SpaceX vers l'ISS en mars.
Oui, c'était le test, justement, d'une capsule développée par SpaceX pour transporter les astronautes de la NASA. C'était au Centre spatial Kennedy en Floride. La veille, dans les 24 heures, 48 heures qui précèdent, une espèce d'excitation partout dans le Centre spatial. Et puis vient le lancement. Là, il fait nuit noire. Tout le monde est dehors. Et puis on attend. Et là, on voit le compte à rebours, moins 5, 4. Il y a la salle de contrôle qui fait les 10 dernières secondes. Et puis là, soudain, on voit comme une bougie qui s'allume, loin. Puis on n'entend rien, parce qu'on est quand même à 5 km. On voit un nuage, on voit la boule de feu qui commence à monter. Et puis ensuite, la fureur, le bruit nous atteint. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est comme une explosion qui durerait plusieurs minutes et qui monte et qui monte et qui monte. Et les décibels, ça devient vraiment assourdissant.
3, 2, 1, 0.
Et après, ce qui se passe, je crois qu'il était 4 heures du matin, il y a la conférence de presse post-lancement. Et Elon Musk est arrivé. Elon Musk, le patron de SpaceX, c'était un peu un secret qu'il était au centre spatial. Tout le monde avait vraiment les traits tirés, et en particulier Elon Musk, qui avait vraiment l'air exténué. C'est le seul qui ne souriait pas, au point que ma première pensée, c'était « Ah, mince, il y a eu un problème, et la capsule est retombée. » En fait, pas du tout. Tout allait très bien, mais je pense qu'il est très fatigué, au point de peut-être d'être surmené. Et donc ça se voyait. Dans la conférence de presse, il a dû lui-même dire « Oui, je suis vraiment fatigué, c'était vraiment stressant. »
C'était super stressant, mais ça a marché.
It worked. I don't really believe in the future of space.
Je crois vraiment en l'avenir de l'espace, et je pense qu'il est important que nous soyons devenus une civilisation spatiale et qu'on soit au milieu des étoiles. Je pense que ça rend les gens enthousiastes pour l'avenir.
Pendant cette conférence de presse, il y avait le patron de la NASA et le patron de SpaceX côte à côte. Est-ce que tu peux nous parler un peu des deux, ces deux styles qui sont très différents ?
Alors la NASA, donc, c'est une vieille maison qui est assez transparente, qui a une mission de service public, qui collabore bien avec la presse. Après, ce qui est amusant, c'est que quand tu vas à la NASA, tout le monde est en costume cravate. Chez SpaceX, c'est pas du tout le style. Les gens sont en jean et en t-shirt. C'est vraiment une culture de l'entrepreneuriat. Et en revanche, ça implique que, comme beaucoup de sociétés modernes, ils sont un peu moins transparents avec la presse.
Christophe Vacht, bonjour.
Bonjour.
Tu es le chef du service économique Amérique du Nord de l'AFP et tu es aussi passionné d'espace. Pourquoi SpaceX est l'entreprise aujourd'hui la plus connue dans ce nouveau secteur ?
Il y a deux raisons. C'est que, un, elle a été fondée par Elon Musk. Et la deuxième raison, c'est simplement, elle fait rêver. SpaceX a été créée en 2003. Et aujourd'hui, SpaceX arrive à faire quasiment tout le temps, avec succès, quelque chose que personne d'autre ne fait. C'est reposer le premier étage de ses lanceurs. Ils reviennent sur Terre ou sur mer sur une barge flottante.
Quand tu dis lanceur, c'est une fusée, hein ?
C'est une fusée, un lanceur. Et donc ça, c'est un concept qu'il a poussé au bout de sa logique. Il a aussi cette dimension un peu fun qui fait que tout d'un coup, on redonne à l'exploitation de l'espace un côté pionnier, un côté un peu, un peu fun. Elon Musk, en février l'année dernière, a réussi à lancer Falcon Heavy. Donc c'est en fait trois de ses fusées collées ensemble. Lui, pour le premier lancement de ce qui est la plus grosse fusée du monde actuellement, il a décidé de rigoler un petit peu, parce qu'il aime bien rigoler. Et il a mis à bord son roadster Tesla, donc c'est une voiture décapotable, toute rouge, avec au volant de la voiture un mannequin d'astronaute. Son roadster est parti en direction de Mars.
Est-ce que SpaceX est rentable ? Est-ce que SpaceX gagne de l'argent ?
Il y a deux moyens de voir ça. C'est un, on va croire la directrice des opérations qui explique depuis plusieurs années qu'effectivement, SpaceX gagne de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut juste les croire, parce que SpaceX est une entreprise privée qui n'est pas cotée en bourse et donc elle n'a pas d'obligation de publier ses résultats financiers.
Mais concrètement, avec quoi ils gagnent de l'argent ?
Parce qu'ils lancent des charges utiles, donc il y a des gens qui les payent pour lancer leurs satellites, pour lancer autre chose. Par exemple, l'année dernière, ils ont réussi à lancer 20 fusées. C'est juste incroyable. Il n'y a que les Chinois qui en ont lancé 35 pendant une année qui en ont lancé plus. Donc c'est un service de transport.
On ne peut pas parler de SpaceX sans parler d'Elon Musk, dont tu as déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous dire qui il est ?
Alors, Elon Musk, il est né en Afrique du Sud. Ensuite, il a pris la nationalité canadienne et américaine. Il a 48 ans. Et il est très riche parce qu'il est aussi très, très intelligent et qu'il a su mettre son intelligence au service des affaires, notamment en créant PayPal. Donc le service de paiement par Internet, c'est quelqu'un qui est assez difficile à lire parce qu'il est brillant, il peut être condescendant et donc parfois il est un peu insupportable. Mais il a 13 visions à la douzaine, si j'ose dire. Non seulement il a créé SpaceX, mais il a aussi lancé la Tesla, compagnie automobile qui fait que des voitures qui sont uniquement électriques. Donc il est un peu sur tous les fronts, c'est un type brillant, agaçant parfois, cassant, mais qui est probablement considéré comme l'un des génies de son époque, oui.
C'est quoi sa vision de l'espace ?
Alors j'allais dire c'est tout simple, c'est sauver l'humanité. Et l'idée c'est de coloniser le système solaire, en commençant par Mars. Il a du mal à imaginer que l'humanité puisse survivre simplement sur Terre, et donc il faut partir. Il a prévu des plans pour mettre 1 million de personnes sur Mars. Il est en train de travailler à la fusée qui devrait lui permettre d'y aller directement. Enfin voilà. Donc c'est une vision précise, claire. Est-ce que pour l'instant elle est réaliste ? C'est difficile à dire, mais en même temps, avec Musk, on a envie de dire on ne sait jamais quoi. Il peut y arriver.
L'histoire prévoit qu'il y ait une fin du monde. Une des alternatives est de devenir une espèce qui voyage dans l'espace, qui vit sur d'autres planètes, ce qui est, j'espère que vous êtes d'accord, la bonne chose à faire.
L'une des rivales de SpaceX, c'est Blue Origin, avec à sa tête Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Tant pour Elon Musk que pour Jeff Bezos, quel sens ça fait pour un milliardaire d'investir dans des sociétés spatiales dont l'avenir est quand même incertain ?
Disons que les deux sont passionnés d'espace. Pour Bezos, ça remonte à très très loin. Quand il était gamin, il allait dans les Space Camps en Floride, où il a vécu. Et après, il a été président quand il était à Princeton, donc c'est une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Il a été président d'une association de promotion et de développement de la conquête spatiale. Ce qui est fabuleux et fascinant entre ces deux hommes, donc Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, Elon Musk est très riche, et tous les deux se passionnent pour l'espace, mais ils ont deux personnalités très différentes. Jeff Bezos, c'est un homme beaucoup plus discret que Elon Musk. C'est pas quelqu'un qui s'excite sur Twitter, qui commence à lancer des insultes. Ou... Non, c'est quelqu'un de plus posé, de plus réfléchi, qui sait ce qu'il veut, qui va doucement, mais sûrement.
Yvan, beaucoup des sociétés privées qui sont nées ces dernières années se sont lancées dans les satellites. Pourquoi ?
Ce qui s'est passé récemment, c'est que les satellites se miniaturisent et coûtent de moins en moins cher à fabriquer. Donc il y a une vraie explosion du nombre de satellites en orbite terrestre. Il y en a eu 300 lancés l'an dernier, et il y en aura encore plus lancés cette année. C'est un nouveau business qui est plus du tout comme auparavant, le monopole ou de quelques grands groupes. C'est plus seulement Boeing et Airbus qui fabriquent des satellites. Il y a aujourd'hui des petites sociétés. Je suis allé visiter l'une d'elles à San Francisco, ça s'appelle Planet. J'ai vu au rez-de-chaussée de leur immeuble comment ils fabriquent à la chaîne leurs tout petits satellites. Et c'est ces satellites-là qui photographient la Terre tous les jours.
Et il y a quelques gros projets en cours, est-ce que tu peux nous parler de l'un d'entre eux ?
Et oui, et on va retrouver SpaceX dans cette affaire. Elon Musk veut donner Internet à haut débit à toute la planète. Et donc Elon Musk a eu l'autorisation des autorités américaines d'envoyer 12 000 satellites en orbite autour de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire 12 000 satellites autour de la Terre en plus ? Aujourd'hui, en 50-60 ans d'histoire spatiale, il y a environ 20 000 objets autour de la Terre. La plupart, c'est des débris, des morceaux de fusées usagés ou des satellites qui ne sont plus opérationnels. Et donc aujourd'hui, il y a environ 2 000 satellites actifs en orbite autour de la Terre. Elon Musk a l'ambition modeste d'en rajouter 12 000. Et il n'est pas le seul, Amazon veut faire la même chose. Et d'autres sociétés, par exemple OneWeb, je crois qu'il prévoit 600 satellites. Mais il y a quand même une inquiétude que le ciel puisse ne plus ressembler à celui qu'on a connu jusqu'à présent. Si on rajoute 10 000 satellites, ça veut dire qu'à tout moment, il y en aura en permanence plusieurs dizaines peut-être, visibles à l'œil nu.
Aujourd'hui, qui sont les rivaux des États-Unis ?
Il y a une rivalité militaire avec la Chine et avec la Russie. C'est pour ça que les États-Unis créent leur force spatiale, leur Space Force. Après, en termes d'exploration, ce que fait la Chine, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, les Chinois. Pour l'instant, ils rattrapent ou ils font à peu près ce qu'ont fait les Américains avant, mais ils ont un programme très efficace et ils veulent atterrir des humains sur la Lune, je crois, dans les années 2030.
Bonjour Ludovic Herret.
Bonjour.
Tu es journaliste pour l'AFP à Pékin et tu es en Chine depuis plus de 10 ans. Tu as couvert quelques étapes importantes du programme spatial chinois ces dernières années. Quel est le budget consacré par la Chine à l'espace ?
C'est un budget qui est en augmentation parce que le programme spatial chinois monte en puissance. Après, c'est vrai que c'est dur de donner un chiffre précis parce que la Chine n'en donne pas vraiment. Selon l'OCDE, la Chine avait un budget espace d'environ 8 milliards de dollars en 2017. Alors c'est un peu plus du double de celui de la Russie, déjà, pour dire. Mais c'est loin derrière les États-Unis qui doivent être à un peu moins de 50 milliards de dollars.
La Chine, actuellement, ne participe pas à la Station spatiale internationale, à l'ISS. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce que tout simplement, elle a interdiction d'y participer. Les États-Unis le lui interdisent, en fait. Et une loi américaine a été votée en 2011, je crois, qui interdit les coopérations en matière d'espace, en fait, entre des entités américaines et la Chine au nom de la sécurité nationale. Mais la Chine coopère avec, finalement, plein d'autres pays, dont la France, la Russie, l'Italie, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans, où la Chine faisait plutôt sourire un peu les grandes puissances de l'espace de l'époque.
Un autre pan de la conquête spatiale, c'est le tourisme dans l'espace. Yvan, qu'est-ce qu'on entend par là exactement ?
Alors le tourisme spatial, c'est Lucie Aubourg qui va au Nouveau-Mexique, dans le hangar de Virgin Galactic, qui va monter dans un petit avion à 6 places, Et cette fusée-avion, par un avion porteur, va remonter en altitude, à peu près l'altitude d'un avion de ligne. Et ensuite, la fusée va s'allumer. Tu vas monter droit vers le ciel. Et au bout du pas longtemps, une minute, le moteur va s'arrêter. Et là, tu te retrouves en apesanteur. C'est un peu... On te lance comme un boulet de canon au-dessus de la frontière imaginaire, arbitraire de l'espace, qui est de 100 km pour le reste du monde, mais 80 km pour les États-Unis. Tu vas flotter quelques minutes, tu vas voir la courbure de la Terre, le ciel sera noir, et puis ton vaisseau va progressivement retomber vers la Terre, et là tu vas planer et réatterrir, et ça te coûtera peut-être 200, 300 000 dollars. Donc ça c'est le projet de Richard Branson, le patron du groupe Virgin, un milliardaire britannique qui rêve d'aller dans l'espace. Il y a une deuxième société concurrente qui essaye d'ouvrir le tourisme spatial, ça s'appelle Blue Origin. Et là, c'est plus traditionnel, c'est une petite fusée verticale qui va décoller verticalement. On dépasse la frontière de l'espace, cette fois 100 km, ils vont plus haut. Et pareil, tu vas flotter quelques minutes et puis tu vas retomber, la capsule retombe comme un boulet de canon, mais avec des parachutes pour ralentir et puis tu t'atterris dans le désert, cette fois c'est au Texas.
Est-ce que tout le monde pourra le faire ?
Ils disent que tout le monde pourra le faire. Virgin m'a dit que pour l'entraînement, ce serait 3 jours sur place. Il faut être en bonne santé. Voilà. Il y a un grand tabou aussi, dont ils ne parlent pas, mais c'est est-ce que les gens vont vomir ? Est-ce que les gens vont avoir la nausée ? Eh oui, parce qu'en apesanteur, c'est un effet connu. Il y a des astronautes qui sont malades.
Qui ont le mal de l'espace.
Le mal de l'espace, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Oui, et cette fois, un petit peu plus loin. Donc, peut-être dès l'année prochaine, la NASA va autoriser des touristes spatiaux à aller sur la Station Spatiale Internationale. Et à plus long terme, Elon Musk a signé avec un milliardaire japonais qui s'appelle Yusaku Maezawa pour aller faire le tour de la Lune. Et ça, ce serait à bord d'une nouvelle fusée, d'un nouveau vaisseau SpaceX qui n'existe pas encore.
Est-ce qu'on peut parler d'une privatisation de l'espace ?
Ça dépend de quand on parle par l'espace. Il va y avoir peut-être une privatisation de l'orbite basse. Qu'est-ce que c'est l'orbite basse ? C'est là où est la Station Spatiale Internationale. Et en tout cas, la NASA veut privatiser cette partie parce qu'elle pense qu'il y a un peu un marché et donc elle pourrait un peu se désengager et consacrer son argent à des choses pour lesquelles il n'y a pas de marché, c'est-à-dire aller sur la Lune ou Mars. Elle a un budget limité. Et donc ces milliards, elle veut les dépenser là où personne d'autre ne peut les dépenser.
Christophe, pour toi, qu'est-ce qui caractérise la conquête spatiale aujourd'hui ?
C'est juste l'utilisation industrielle quasiment de l'espace. L'espace, c'est devenu une évidence aujourd'hui. On en a besoin, on y va, on en revient. C'est devenu presque un endroit comme les autres.
Finalement, pour toi aujourd'hui, qui incarne la conquête spatiale ?
Musk et Bezos, c'est des gens avec une vision, une vraie vision et des moyens. Ils incarnent l'esprit pionnier qu'on a pu connaître au début de la conquête spatiale. Depuis la conquête de la Lune, l'espace avait perdu un petit peu ce côté rêve. On a la navette spatiale, on va dans la Station Spatiale Internationale, mais ça faisait plus rêver. Ouais, il n'y avait plus de nouveaux défis avec des gens, avec des hommes. La NASA a fait un travail extraordinaire ces 20 dernières années en termes d'exploration spatiale, mais avec des robots. Ça a fait rêver beaucoup de gens, mais pas la majorité des gens. Et là, le jour où on enverra un homme sur Mars, on aura les mêmes yeux d'enfant qu'on a pu avoir quand on a vu Armstrong marcher sur la Lune.
C'est la fin de cet épisode 8, enregistré en juillet 2019. Merci à Yvan Couronne, Christophe Vogt et Ludovic Erret. Merci aussi à Brigitte Dussault, Hervé Rouache et Sébastien Blanc. Et bien sûr à Antoine Boyer, sans qui ce podcast n'existerait pas. À bientôt pour de nouveaux fragments d'Amérique.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.